Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je vais continuer mes exposés, mais cette fois-ci je vous propose de prendre comme thème la liberté. D'abord parce que ça me permettra de parler de l'église de Philadelphie, qui est l'église de l'amour de Dieu au moment de Noël, c'est déjà mieux. Deuxièmement parce que la liberté actuellement est tout à fait à l'ordre du jour. Il y a les grèves, il y a ces horribles défilés en faveur de l'homosexualité et de l'avortement, qui sont un véritable scandale. Il y a toutes ces questions politiques où la question de liberté est agitée et décrite à tort et à travers. Je vais donc essayer de parler de ce sujet en 7 points. D'abord, les définitions de la liberté. Il faut bien remarquer que ce mot a été ressenti de manière très différente. Dans l'Antiquité, était libre tout homme qui n'était pas esclave. Ça a le mérite de la simplicité. Saint Thomas d'Aquin dit « Dieu a créé l'homme libre ». Pour saint Thomas d'Aquin, l'homme, c'est la liberté, la faculté de choisir et de se déterminer. Donc la possibilité d'agir sans contrainte. Après l'époque dite des Lumières, et je dis souvent qu'on devrait plutôt l'appeler l'époque des Ténèbres, ce concept de liberté a complètement changé. Montesquieu disait « La liberté est de faire ce que les lois permettent ». Donc, on n'est pas libre de faire ce que les lois ne permettent pas. La liberté est de faire ce que les lois permettent. La Déclaration des droits de l'homme dit « La loi est l'expression de la volonté générale ». Ainsi, la liberté serait définie par la décision d'une assemblée sans autre justification que celle des groupes de pression les plus puissants, société de pensée ou pouvoir financier. Cette assemblée a le pouvoir de décider du bien et du mal. Nous sommes en plein dans le récit de la chute de la Genèse. C'est vous qui déciderez du bien et du mal. C'est la porte ouverte à tous les totalitarismes. D'après cette définition, Antigone est ennemi de la liberté, puisque la loi avait décidé qu'il ne fallait pas enterrer son frère et qu'elle a décidé de le faire. Donc, il était juste qu'Antigone fût condamnée, car elle était contre la loi, contre la volonté générale. D'ailleurs, la Convention a dit « Il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». C'est clair et c'est net. Et pourtant, saint Jean a dit « La vérité vous rendra libre ». Par conséquent, on ne trouvera la liberté que dans la vérité. Et je pense que c'est là un point essentiel. La liberté réside dans la vérité. Dans un deuxième point, on peut quand même s'interroger sur les limites de la liberté. Quel qu'en soit le fondement, la liberté a ses limites. Notons d'abord que la liberté est une faculté de la volonté et non un attribut de l'intelligence. Si quelqu'un m'a acheté 2 fois 2 kilos de carottes, j'ai la liberté, c'est-à-dire la volonté, de lui en facturer 5. Mais mon intelligence dira toujours que 2 et 2 font 4, et que les 2 fois 2 kilos de carottes n'en font que 4, même si je m'arroge le droit de lui en facturer 5. Alors, au point de vue limite de la liberté, nous pouvons d'abord constater la nature. Je défie quelqu'un de rester 1 heure sans respirer, 1 semaine sans boire ou 1 an sans manger. Nous ne sommes pas libres de par notre propre nature. De même, j'ai la liberté d'aller dans la Lune, mais je ne puis pas le faire par mes propres forces. Je ne peux pas sauter au-dessus d'un mur de 6 mètres de haut, etc. La deuxième, c'est le conditionnement. Nous sommes tous conditionnés par notre âge, notre éducation, la langue que nous parlons. La langue, on conditionne très bien, il n'y a qu'à savoir les expressions sur lesquelles le français est très délicat, ou au contraire, l'allemand ou d'autres langues comme le russe, notamment pour les verbes. Donc nous sommes conditionnés par la langue que nous parlons. Le conditionnement peut gêner notre liberté, mais non pas la supprimer, sauf dans quelques cas exceptionnels, comme par exemple la dépendance vis-à-vis de la drogue. Hors de ce cas, notre liberté peut être gênée. Je ne raisonne pas comme un Chinois, je ne raisonne pas comme un Japonais, mais ça, je suis conditionné par mon éducation. La troisième limite de la liberté, c'est la science et la technique à acquérir. j'ai parfaitement la liberté de m'exprimer en chinois. Mais pour ça, il va falloir que j'étudie sérieusement pendant plusieurs temps, pendant plusieurs mois. J'ai la liberté de jouer au piano les textes les morceaux les plus difficiles de Ravel, de Liszt ou de Rachmaninov. Mais pour ça, il va falloir que je reste devant mon clavier pendant des heures et des heures, pendant de longues années. De même pour piloter un avion, un bateau ou une voiture. Il faut acquérir la technique indispensable, parfois au prix d'un travail. Donc, la liberté est quand même dépend d'une science à acquérir qui se doit être faite par un effort constant. Troisième point, faire ce que l'on veut. Oui, la liberté, c'est faire ce que l'on veut. Mais que veut-on ? L'image est très simple, c'est le petit enfant qui dit « je veux du chocolat ». Sa mère dit « tu vas être malade ».« Je veux du chocolat ». Prends ton chocolat. Une heure après, je suis malade. Tu l'as voulu. L'exemple plus tragique est celui du tableau de Gros représentant Napoléon parcourant le chemin des Lots, qui fut un horrible massacre, une horrible tuerie. Et Napoléon, en le parcourant à cheval ce champ de bataille, aurait dit « je n'ai pas voulu cela ». Ah ben mon ami, il fallait s'y prendre avant. Il faut savoir ce que l'on veut. Donc la première exercice de la liberté est la lucidité et la prévoyance. L'exercice de la liberté demande aussi la persévérance. Celui qui change de langue à apprendre ou d'instrument de musique à jouer tous les 6 mois n'arrivera à rien. La troisième condition de la liberté, et ça il faut bien se dire, choisir, ce n'est pas aliéner sa liberté, mais bien exercer le choix d'une possibilité qui annule les autres. Quand on me présente la carte d'un restaurant, je peux bien dire « je choisis tel ou tel plat » et de fait, je renonce aux autres. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de dire que quand je me suis fiancé, j'ai choisi une jeune fille, mais j'ai renoncé à toutes les autres. Ce n'est pas un manque de liberté, on choisit, et si on ne choisit pas, on n'aura aucune liberté. Donc il faut bien dire que le choix, un choix réel, un choix profond, annule la possibilité de choisir autre chose. Sur le quatrième point, maintenant, il s'agit de savoir ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour l'amour. Celui qui agit aime son métier, aime son art. Et là, il faut bien revenir à la langue grecque, parce qu'en France, on aime sa femme comme on aime les petits pois. C'est un peu sommaire. Les Grecs dessinent 3 sortes d'amour. Le premier, c'est l'amour pour soi. C'est le verbe erotan. C'est l'amour de désir qui a donné érotique. Celui d'un être, mais aussi celui d'un art, d'une science. Je veux écrire, je veux apprendre ce texte pour moi. Et je vais faire un gros effort. C'est de l'amour erotan. Ensuite, philène. C'est l'amour d'amitié. Aristote pensait que l'amour conjugal était le prototype de l'amour d'amitié. On aime quelqu'un pour faire avec lui une œuvre ensemble. L'amour conjugal peut avoir d'autres œuvres, n'est-ce pas? Pierre et Marie Curie ont fait ensemble toute l'œuvre sur la radioactivité. Et toutes les femmes qui ont aidé leur mari, je pense à la femme de Pasteur, entre autres, et à bien d'autres, étaient là pour faire une œuvre commune. Le plus souvent, pour un ménage, l'œuvre commune, c'est d'élever, d'avoir des enfants et de les éduquer. Remarquable chose qui est le principe de la continuation de la société. Donc, on s'unit pour faire une œuvre commune. Et le troisième amour, c'est agapan, c'est de porter secours à celui qu'on aime, quelles qu'en soient les circonstances. Je connais l'histoire de cet homme qui avait sacrifié toute sa carrière pour être tous les soirs près de sa femme qui était gravement malade. Il s'est dévoué pour sa femme. Ces 3 amours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Il est certain que lorsqu'on épouse une fille, lorsqu'on épouse une jeune fille, lorsque la fille épouse un jeune homme, l'amour érotique, le côté érotique, le côté de l'avoir pour soi, joue son rôle, et c'est normal. On veut cette fille parce qu'elle vous plaît, parce qu'on voudrait l'avoir. Mais si on se borne à ça, ça ne va pas très loin. On veut en même temps bâtir une œuvre avec elle, et on est prêt à se dévouer pour elle. Donc, cette liberté de choix implique les 3 sortes d'amour. Et on arrive maintenant à la vocation. Nous sommes tous uniques, on ne répétera jamais assez, là je parle à des chrétiens, je parle en chrétien à des chrétiens, on ne dira jamais assez que nous sommes tous uniques et voulu spécialement par Dieu, qui nous connaît par notre nom, comme on dit dans l'Apocalypse. Nous avons un rôle particulier à jouer, et d'une certaine manière, nous sommes irremplaçables. Les exemples de vocation sont multiples. Il y a les vocations religieuses, mais il y a les vocations musicales, je pense à Bach et à Mozart, mais il y a les vocations scientifiques, je pense à Pasteur, à Louis Braille ou à bien d'autres, et il y a les vocations militaires, il y a un tas de vocations. Mais pour réussir sa vocation, il faut la sagesse pour la découvrir, pour savoir quelle est sa vocation. Il faut l'intelligence pour en discerner les moyens. Il faut la force pour s'y appliquer. Il faut le conseil pour bien s'y prendre. Il faut la science pour bien œuvrer, il faut la piété qui est le respect et la crainte de Dieu, c'est-à-dire la crainte de mal faire, la crainte d'être imparfait devant le regard de notre Créateur qui nous aime. En plus des dons du Saint-Esprit, les 10 commandements sont le mode d'emploi de la nature humaine d'un simple point de vue naturel. Donc ici s'arrête l'étude de la liberté sur le plan naturel. Il y a aussi notre vocation finale. Nous sommes créés par Dieu. Saint Paul se plaignait de faire le mal qu'il ne voulait pas et de ne pas faire le bien qu'il voulait. Le péché est donc un esclavage. Si la Sainte Vierge était libre, parce qu'elle ne pouvait pas pécher, mais parce qu'elle gardait toujours intacte sa faculté de choisir le meilleur. Qu'elle ait été tentée, c'est assez évident, mais elle n'a jamais été tentée au point de ne pas choisir quel était le meilleur. Disons qu'elle gardait la tête froide. Le Christ a dit « La vérité vous rendra libre », il a dit aussi « Je suis la vérité ». Donc, la liberté, c'est de suivre le Christ, c'est assez évident, pour peu qu'on garde les évangiles d'un peu près. Et le 7e point, pourquoi nous sommes libres? Pourquoi sommes-nous libres? C'est le grand mystère de l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on l'aime. Lui, il nous aime, c'est évident, mais il veut aussi qu'on l'aime. Or, un amour ne peut pas être obligé. On ne peut pas dire « je veux que tu m'aimes » en plantant quelqu'un en lui mettant le couteau sous la gorge. C'est idiot, il n'est pas libre. Un amour ne peut qu'être libre. Donc, Dieu nous a créés pour l'aimer, c'est-à-dire nous a créés avec l'effrayant pouvoir de le rejeter. Alors ça, il faut bien se mettre devant cette vérité un petit peu effrayante. Dieu veut que nous allions jusqu'à nous et offrir, comme l'enfant de l'Évangile, nos 5 pains et nos 3 poissons. Le cantique des cantiques le dit bien, détourne de moi tes yeux car elle me bouleverse. La liberté, dans le fond, c'est de répondre à l'amour. Et on comprend mieux ce que saint Augustin a dit, aime et fais ce que tu voudras. Voilà. Ben, j'espère que maintenant, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain.